Europe 1.
Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. À l'occasion de la magnifique exposition « Pierres précieuses » que vous pourrez découvrir au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris dès que les musées rouvriront leurs portes, je vous propose une mini-série en 3 épisodes pour vous emmener à la découverte de certains des objets fascinants qu'il vous sera bientôt possible d'observer dans la Grande Galerie de l'Évolution. Dans ce 2e épisode en 2 parties, je vous raconte la fascinante histoire de la plus belle des décorations portées par le roi Louis XV, la Toison d'Or. À notre époque, l'ordre de la Toison d'Or existe toujours. Elle est décernée à des chefs d'État ou à des personnalités éminentes par le roi d'Espagne, Philippe VI. En 1749, Louis XV commande à son joaillier Jacquemin une nouvelle Toison d'Or. Le roi la veut particulièrement belle et éblouissante. Il souhaite que l'on insère dans ce joyau deux des plus beaux diamants bleus de la collection de son arrière-grand-père Louis XIV, le fameux diamant bleu foncé en forme de cœur, chef-d'œuvre de la collection du Roi Soleil, et un autre taillé en forme de coussin, comme le précédent, par Pitan, le joaillier de Louis XIV. Ce deuxième diamant est plus clair, d'un ton légèrement céleste, on l'appelle le bazu. Il pèse 32 carats 66. C'est le second diamant bleu du Roi Soleil. Cette nouvelle parure sera appelée « parure de couleur ». Louis XV possédait déjà plusieurs insignes de la Toison d'Or. Jusqu'à présent, le plus beau était la parure blanche composée de 4 grands diamants blancs, dont le très beau second Mazarin de plus de 25 carats et de nombreux autres plus petits, 175 diamants et 80 rubis. La parure de couleur devait être encore plus éblouissante que la parure blanche. Mais pourquoi Louis XV est-il si attaché à cet ordre de la Toison d'Or ? Et pourquoi cet ordre est-il considéré comme le plus prestigieux de l'Europe occidentale ? Philippe le Bon, duc de Bourgogne, était le fils de Jean sans Peur, l'homme de la querelle des Armagnacs et des Bourguignons. Jean sans Peur avait fait assassiner en 1407 son rival et cousin Louis d'Orléans. Il finit lui-même assassiné en 1419 par un Armagnac partisan de Charles VII. La maison de Bourgogne est ulcérée et par esprit de vengeance, son fils Philippe le Bon s'allie aux Anglais. C'est lui qui, en 1430, leur livrera pour 10 000 écus d'or Jeanne d'Arc, tombée en son pouvoir sous les murs de Compiègne. En 1435, 4 ans après le supplice de Jeanne d'Arc, Philippe le Bon obtient de Charles VII d'être indépendant et il agrandit encore son domaine. Sa ville de Dijon est alors la capitale d'un État puissant qui comprend une partie de la Belgique et des Pays-Bas actuels, le Luxembourg, la Flandre, l'Artois, la Picardie et le territoire compris entre la Loire et le Jura. Le 14 janvier 1429, il avait épousé Isabelle de Portugal. Elle était sa 3e épouse. À cette occasion, il avait créé l'ordre de la Toison d'Or. Il est fondé en l'honneur de Dieu, de la Vierge et de Saint André, mais avec le souci de fidéliser la haute noblesse autour de lui. L'ordre comporte à l'origine 31 membres, 31 chevaliers qui symbolisent l'union étroite autour de lui de la noblesse des riches et vastes territoires bourguignons. Ses membres revêtent de somptueux costumes, une robe écarlate fourrée de petits gris et recouverte d'un long manteau du même drap vermeil, également fourré de petits gris. L'ordre s'inspire évidemment de la légende de la Toison d'Or conquise par Jason et ses argonautes. La Toison d'Or, dans la mythologie grecque, est celle du bélier ailé et divin qui emporta dans les airs Phrixos et Hélé qui fuyaient leur belle-mère Ilo. Hélé tomba en mer. Arrivé en Colchide, au-delà de la mer Noire, Phrixos immola le bélier à Zeus et fit cadeau de la Toison d'Or magique qui apporte la fortune au roi de Colchide, Aïétès. Celui-ci la suspendit à un pommier et la fit garder par un dragon nommé Ladon. Plus tard, Jason, fils du roi de Thessalie Aeson, est chargé par son père d'aller chercher la fameuse Toison en Colchide et de la lui rapporter. la déesse Athéna dirige la construction du bateau appelé Argo, qui emportera Jason et ses compagnons, les Argonautes. Arrivé en Colchide, Jason se voit refuser la toison par le roi Aïétès, mais Médée, sa fille, lui donne les moyens de la conquérir. C'est ce bélier d'or accroché à une branche d'un pommier et gardé par un dragon qui sera la symbolique de l'ordre de la toison d'or. En effet, le collier de la toison d'or se compose d'un bélier d'or suspendu à une chaîne d'or décorée de pierres à feu bleu émettant des flammes. La signification est « Je suis un valeureux chevalier prêt à combattre avec la pierre à fusil et les feux si je dois défendre mes valeurs, la toison d'or ». Il s'agit, bien sûr, d'un ordre totalement bourguignon. Pendant 20 ans, après la paix d'Arras, la France de Charles VII et la Bourgogne de Philippe le Bon vont vivre en bonne entente. Le duc de Bourgogne entretient alors une des plus brillantes cours d'Europe, régentée par 5 grands officiers, le maréchal de Bourgogne, l'amiral de Flandre, le chambellan, le grand écuyer et le chancelier. Philippe le Bon se détourne alors des affaires françaises et se consacre entièrement à son état bourguignon. Il réprime les révoltes fiscales des cités de Liège et de Gand, cela arrivera souvent, travaille à l'unification des domaines tout en respectant les coutumes locales. Sous son impulsion se développe un puissant courant intellectuel avec l'université de Louvain, fondée en 1425, et un brillant essor artistique avec des peintres tels les primitifs flamands Van Eyck et Memling. Il reçoit le surnom, très envié, de « Grand-Duc d'Occident ». Mais son duché souffre d'un grave défaut, il n'est pas d'un seul tenant. La Champagne et la Lorraine séparent les deux parties, Bourgogne et Franche-Comté d'une part, les Pays-Bas de l'autre. Philippe le Bon et son épouse Isabelle vont avoir un fils, Charles, le 11 novembre 1433. À seulement 19 jours, il est élu chevalier de la Toison d'Or. Honneur extraordinaire, mais l'événement est à la mesure du soulagement de Philippe le Bon. Il n'avait pas eu d'enfant de ses deux premières femmes et avait perdu les deux premiers que lui avait donnés sa troisième épouse, Isabelle. Le petit Charles aura une vie itinérante entre la Bourgogne et la Flandre. La famille se déplace de ville en ville, Bruxelles, Gand, Tournai, Bruges. En 1438, il a 5 ans. Son père lui attribue une maison. Il est titré comte de Charolais. La paix d'Arras, signée avec le roi de France Charles VII en 1435, avait mis fin à 16 années de guerre franco-bourguignonne. En gage de paix, Charles est fiancé à Catherine de France, fille de Charles VII. Leur mariage est célébré à Cambrai le 11 juin 1439. La mariée a 11 ans, le marié 6. Pendant 7 ans, jusqu'à la mort prématurée de Catherine, le très jeune couple réside à Bruxelles. Après la mort de son épouse, Charles, veuve de 13 ans, retourne vivre chez ses parents. Il a une nature ardente de sportif et grand chasseur. Il est courageux, loyal, mais aussi violent, orgueilleux et entêté, ce qui va le mettre en état d'infériorité face à son adversaire retors, Louis XI, qui le jugeait folle ou peu s'en faut. Son grand dessein est de réunir ses possessions des Flandres à celles de Bourgogne et de Franche-Comté, pour créer entre la France et l'Empire un nouveau royaume qui pourrait s'étendre jusqu'à la Méditerranée. Si l'on veut résumer, il lui faut conquérir la Champagne et la Lorraine au détriment de Louis XI. Devenu duc de Bourgogne en 1467, Charles, qu'on appelle le Téméraire, punit avec rigueur les Liégeois qui s'étaient révoltés contre leur évêque avec l'aide de Louis XI. Tout son règne sera rempli par ses guerres contre Louis XI, dont il était le plus puissant vassal, mais contre lequel il essaie de dresser l'empereur et le roi d'Angleterre. En 1475, il entreprend la conquête de la Lorraine pendant que Louis XI, qui avait réoccupé en 1471 les villes de la Somme, trouvait des alliés contre l'expansion bourguignonne, en particulier les Suisses, qui portèrent des coups décisifs aux téméraires à la bataille de Grandson en mars 1476, puis à Morat en juin 1476. Charles le Téméraire finit par trouver la mort sous les murs de Nancy en janvier 1477. L'État bourguignon s'effondre avec lui. Louis XI annexe alors la Bourgogne. De son second mariage avec Isabelle de Bourbon, le Téméraire n'avait eu qu'une fille, Marie, née en 1457. Elle apporte le reste de son héritage, notamment les immenses territoires des Pays-Bas à la maison d'Autriche en épousant, à l'été 1477, l'archiduc Maximilien, fils de l'empereur Frédéric III de Habsbourg. Or, Philippe le Bon, premier grand maître de l'ordre de la Toison d'Or, avait bien précisé que cette fonction ne pouvait être exercée que par un homme. C'est donc Maximilien de Habsbourg qui devient le nouveau grand maître de l'ordre de la Toison d'Or. Maximilien va devenir l'empereur Maximilien Ier et aura plusieurs enfants avec Marie. L'aîné, Philippe Ier, dit le Beau, va hériter de sa mère les Pays-Bas. Il épousera Jeanne la Folle, héritière de l'Espagne et du royaume de Naples. C'est leur fils aîné, Charles, qui deviendra l'empereur Charles Quint. Il héritera d'un empire immense, représentant plus de la moitié de l'Europe, avec l'Autriche, les Pays-Bas, l'Espagne et le royaume de Naples. L'historien Pierre Chaunu parlera même d'un empereur accablé d'héritage. C'est désormais lui le grand maître de la Toison d'Or, et lorsqu'il réglera sa succession, c'est à son fils, le roi d'Espagne Philippe II, qu'il transmettra la grande maîtrise. À dater de la mort de Charles Quint, ce sont les rois d'Espagne, Philippe II et ses successeurs, qui sont les titulaires de la grande maîtrise de la Toison d'Or, les seuls autorisés à choisir leur chevalier. En 1701, le souverain espagnol Charles II meurt sans postérité. Une guerre va éclater pour sa succession. Elle oppose principalement Louis XIV et l'empereur Léopold Ier du Saint-Empire, un Habsbourg. Tous deux avaient de bonnes raisons de revendiquer le trône d'Espagne. Tous deux avaient épousé des sœurs de Charles II et tous les deux étaient des petits-fils de Philippe III d'Espagne. Louis XIV choisit de soutenir les droits de son petit-fils, Philippe d'Anjou, et Léopold Ier ceux de son fils, l'archiduc Charles. Charles II, maladif et sachant qu'il ne pouvait avoir d'héritier, avait néanmoins semblé soutenir le successeur français. En effet, Louis XIV et sa femme avaient solennellement renoncé à leurs droits sur le trône espagnol, mais la diplomatie française avait fini par obtenir au dernier moment de Charles II la désignation comme son successeur du petit-fils du roi Soleil, Philippe d'Anjou. Les choses ont allé vite. Philippe d'Anjou arrive à Madrid au début de 1701. Il est tout de suite couronné sous le nom de Philippe V. Toutes les puissances européennes le reconnaissent, à l'exception de l'empereur Habsbourg. Mais la décision d'ouvrir l'empire colonial espagnol au commerce français soulève l'opposition de l'Angleterre et des Provinces Unies. Une grande alliance se forme alors contre la France et l'Espagne. Elle regroupe l'Angleterre, le Saint-Empire, la Hollande et plus tard le Portugal et la Savoie. C'est une coalition contre Louis XIV et Philippe V qui ont comme seul allié la Bavière. La guerre de succession d'Espagne éclate en septembre 1701. Après quelques succès franco-espagnols entre 1701 et 1704, les désastres vont suivre. Les Anglais s'installent à Gibraltar, l'archiduc Charles est proclamé roi d'Espagne en septembre 1706 et Philippe V est chassé de Madrid. L'hiver 1708-1709 est désastreux pour la France envahie où sévit la famine. Louis XIV tente des négociations, mais les conditions sont si humiliantes qu'il les refuse. Les Français tentent alors un ultime effort. Le maréchal de Villars arrête les alliés à Malplaquet en 1709 et en 1710, vainqueur à Villaviciosa, il les chasse de Catalogne. Deux immenses victoires. Un tournant pour la guerre, conforté par la mort inopinée de l'empereur Joseph Ier. Son successeur, l'archiduc Charles, monte sur le trône impérial sous le nom de Charles VI. Les puissances alliées sont alors terrifiées à l'idée d'une reconstitution de l'empire de Charles Quint au profit de Charles VI. L'Angleterre se retire immédiatement de la coalition et Villars remporte une victoire décisive à Denain, près de Valenciennes, en 1712. Une série de traités, dont celui d'Utrecht en 1713, mettent fin à ces terribles conflits. Philippe V est reconnu roi d'Espagne et un nouvel ordre européen est installé. L'Autriche, à la tête de l'Empire, investit l'Italie. La France retrouve ses frontières et l'Angleterre devient maître du rocher de Gibraltar, le verrou de la Méditerranée dont elle a toujours la clé. Philippe V règne sur l'Espagne, tandis que la plupart des possessions espagnoles en Europe, comme Naples, la Sicile, le Milanais et les Pays-Bas sont cédés à l'empereur. Quant à l'Angleterre, elle garde Gibraltar et Minorque en même temps qu'elle annexe Terre-Neuve et l'Acadie au Canada. C'est donc désormais, après la longue épreuve de la guerre, un Français qui règne à Madrid et qui est le grand maître de la toison d'or. Les Habsbourg ne veulent pourtant pas renoncer à leurs droits sur cet ordre prestigieux. À partir de ce moment, la toison d'or a eu deux grands maîtres. L'un comme l'autre pouvait y prétendre, le roi d'Espagne à Madrid d'une part et le souverain Habsbourg du Saint-Empire à Vienne de l'autre. C'est la raison pour laquelle le roi Louis XV a été fait chevalier de la toison d'or par le roi d'Espagne. Il est le premier roi de France à entrer dans cet ordre. On comprend qu'il y soit attaché et qu'il veuille que son insigne de couleur soit le plus beau jamais réalisé. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode de « Au cœur de l'histoire » en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle à l'occasion de l'exposition « Pierres précieuses » que vous pourrez bientôt visiter à la Grande Galerie de l'Évolution.
« Au cœur de l'histoire » est un podcast Europe 1 Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute. Ressources bibliographiques. Charles le Téméraire par Henri Dubois, édition Fayard, 2004. Pierres précieuses, catalogue de l'exposition au Muséum national d'histoire naturelle sous la direction de François Farge, Van Cleef & Arpels, édition Flammarion, 2020. Louis XV par Pierre Gaxot de l'Académie française, édition Flammarion, 1980. Madame de Pompadour et les Arts, sous la direction de Xavier Salmon, Réunion des musées nationaux, 2002. La saga des favorites, par Jean Descartes, édition Perrin, 2013.